C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité. Bonjour Charlotte.
Bonjour Jérémy.
Je suis super content de te recevoir. Ça fait très longtemps qu'on doit faire ce podcast ensemble.
C'est vrai.
Charlotte, tu es docteur en neurosciences ?
Ouais, tout à fait. J'ai eu un doctorat en neurosciences cognitives dans les beaux labos de recherche publique de Lyon.
Ok, et tu es là pour nous parler des biais cognitifs ?
Ouais, tout à fait. Ça fait partie des sujets que j'ai couverts. On en parlera un peu plus dans la suite de ce podcast, mais sur ce qu'on appelle le système 3, qui nous permet justement de résister à nos automatismes et à nos biais. Et donc, c'était le sujet de ma thèse. À l'époque, on n'en entendait pas du tout parler. Et maintenant, les biais cognitifs, on commence à en entendre un peu plus parler. Donc, c'est l'occasion d'en discuter ce matin.
Système 3 qui découle du système 1, système 2 de Kahneman.
Exactement. Okay. On en reparlera.
Super. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te plonger dans le sujet des biais cognitifs ?
Vaste question. Alors déjà, comme toujours, on recherche des rencontres qui nous amènent à nous poser des questions. Moi, ce qui m'a toujours intéressée depuis toute petite, c'est vraiment de comprendre les mécanismes de la pensée. Qu'est-ce qui va guider mes comportements, mes prises de décision, mes jugements? Et donc forcément, quand on arrive sur ces questions de qu'est-ce qui fait que j'agis de cette façon-là, qu'est-ce qui me limite aussi dans mes capacités d'agir, eh ben, on en vient très rapidement à comprendre, à se poser les questions de comment fonctionne mon cerveau quand il va bien. Comment il fonctionne quand il va moins bien, et c'est ce que j'ai fait aussi pendant ma thèse avec des cas pathologiques où justement ces systèmes sont déficients et ça entraîne un certain nombre de pathologies. Et donc forcément on arrive sur le sujet des biais cognitifs parce que c'est le mécanisme phare qui explique nos automatismes et les raisons pour lesquelles on va parfois avoir des comportements qui sont irrationnels. Et finalement, on a souvent cette dichotomie de dire, voilà, il y a ceux qui disent l'être humain est très rationnel, ceux qui disent la rationalité n'existe pas, et il y a souvent un débat à dire finalement qui a raison. Je pense que la réponse, elle se trouve justement dans le cerveau, et c'est ce qui m'a amené à faire des études sur les neurosciences, en comprenant qu'en fait, l'objectif de notre cerveau, même si nous, on souhaite être rationnel dans nos comportements, c'est pas l'objectif premier de notre cerveau. Ce que lui, il veut, c'est pas être rationnel, c'est s'adapter très rapidement à la réalité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à prendre des décisions très rapides, qu'on arrive à évoluer très rapidement, à s'adapter à des situations. Mais c'est ce qui nous limite aussi dans nos capacités à prendre ces décisions rationnelles et ce qui laisse la porte ouverte à de plus en plus de biais.
Justement, on parle de biais. Est-ce que tu peux définir ce terme-là ? Pour nous, c'est vrai qu'il est assez quotidien, on l'emploie très régulièrement. Mais pour les personnes qui découvrent ce biais aujourd'hui, comment on peut le définir simplement, en quelques mots ?
Alors, en quelques mots, c'est un mécanisme de pensée que l'on a tous. Donc, aujourd'hui, on entend beaucoup parler comme s'il fallait absolument lutter contre. C'est quelque chose qui est bon pour nous, qui est un bienfait de notre cerveau, qui est un mécanisme pour nous aider justement à prendre des décisions rapidement. Donc, pour nous permettre d'agir vite, de mémoriser efficacement, de faire le tri dans toutes les informations qui sont en face de nous, et puis de donner du sens à ce qu'on vit dans notre environnement. Et donc, ces biais-là, c'est des raccourcis mentaux, des automatismes de pensée. Et le pendant négatif des biais cognitifs, c'est que qui dit prendre des décisions rapides, dit parfois faire des erreurs de jugement. Donc, prendre des décisions qui, justement, ne sont pas rationnelles, ne sont pas celles qu'on aurait pu prendre à tête reposée parce qu'on est allé un peu vite et qu'on a plongé dans ces biais cognitifs.
De ma compréhension des biais, vraiment, c'est un héritage qui est évolutif.
Mmh.
Donc, on a depuis vraiment le début de l'existence, en quelque sorte, qui ont permis la survie. Ce qui explique du coup encore le fait qu'ils sont encore présents aujourd'hui. Mais c'est pas tant que ces biais, d'après ce que de ma compréhension des choses, qui posent problème. C'est l'environnement qui a changé, qui rend ces biais partiellement, pas obsolètes, mais plus défaillants en quelque sorte. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à ça ? Ok.
Là, en fait, les biais Initialement, le but, comme je le rappelle, c'était du coup de ne pas forcément d'être rationnel, mais de s'adapter rapidement à la réalité. Donc les biais, ils étaient justement là pour nous permettre d'automatiser un grand nombre de choses. Puisque dans notre environnement, on va avoir 99% de nos décisions qui sont inconscientes et on va prendre des décisions extrêmement rapides de l'ordre de 200 millisecondes. Donc en 200 millisecondes, il faut que notre cerveau, il sache est-ce que c'est ami, est-ce que c'est ennemi, est-ce que je fuis, est-ce que je vais, est-ce que j'y vais. Et donc pour ça, il a besoin de prendre des décisions très rapides. Donc les biais, par l'évolution, nous ont permis de faire face à ce flot d'informations et à garantir notre survie avec, voilà, avec un certain nombre de biais qui nous permettent d'appréhender très rapidement la situation. Aujourd'hui, le problème que moi je vois, enfin en tout cas là où il est de plus en plus difficile de lutter contre nos biais et on plonge de plus en plus dedans, c'est parce que le flot d'informations, il ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations multiples, on a du mal, parce que le principe du biais, il y a moins de biais, on n'est pas forcément biaisé si on a le temps de prendre des décisions. Si on a de l'information qui est exhaustive, qui est illimitée, qu'on a toutes les informations nécessaires, on est capable dans ce cas-là de faire un pas de côté, de pondérer les différentes options et de prendre la bonne décision. Là où on va avoir du mal à prendre la bonne décision et donc on va avoir un grand nombre de biais qui vont être à l'œuvre, c'est dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est surstimulé, on a de l'information qui est parcellaire, on a de l'information, on a du mal à savoir si les sources sont fiables ou pas. Et donc finalement, on va plonger encore plus dans nos biais, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui.
Il y a une surcouche en plus que j'aimerais ajouter, dis-moi ce que tu en penses, c'est le manque de sommeil. Forcément, qui dit manque de sommeil, dit manque d'énergie, dit un cerveau qui veut économiser de l'énergie. Donc, qui va plus passer par le système 1 de Kahneman, la réaction rapide, le fait de ne pas spécialement réfléchir mais d'agir avant toute chose, plutôt que par le système 2 qui lui est plus dans la réflexion, l'analyse, la prise de recul.
Tout à fait. En fait, c'est exactement ça. Quand on a le temps et les ressources cognitives pour prendre le temps de réfléchir, on est capable d'adopter des comportements rationnels et de bonnes décisions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on agisse très très vite dans un monde où on est surstimulé et dans un monde où, en plus, par le manque de sommeil et par le manque aussi d'hygiène, le stress, voilà, tout ce qui va faire qu'on est contraint à prendre des décisions encore plus rapidement, on va avoir encore plus de biais. Et le sommeil, il est clé parce que c'est pendant le sommeil qu'on va être en capacité justement de remettre à niveau en tout cas notre charge mentale et nos ressources cognitives. Il faut bien se dire que notre cerveau, il a des ressources qui sont extrêmement limitées, que ce soit en termes de mémoire ou en termes tout simplement d'informations qu'il va pouvoir traiter pendant la journée. Et quand je manque de sommeil, ben forcément mes ressources, elles sont encore plus limitées, donc je vais avoir tendance à être encore plus impulsif. Et donc qui dit plus impulsif, dit plus beaucoup plus guidé par mon système 1, mon système rapide, et donc par mes biais cognitifs, et beaucoup moins en capacité d'aller appeler mon système 3 pour lui dire retiens ces automatismes, retiens cette impulsivité, et au contraire, laisse-moi le temps de prendre une décision un peu plus réfléchie, un peu plus lente.
Donc si je résume vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas cette thématique et ce terme-là, le système 1 réellement c'est la pensée très rapide, c'est la décision immédiate. Il y a un problème, je réagis avant de réfléchir. C'est ce qui a permis la survie face typiquement à un tigre à dents de sabre.
Tout
Si
à
on
fait.
se dit je vais faire un plan en 10 étapes pour savoir par où je vais partir, comment je vais fuir, etc., on est
Et
déjà
s'il est vraiment
dévoré avant d'avoir
dangereux ou
commencé.
pas, ou si peut-être que
Voilà.
celui-là, il est sympa.
Et c'est ce qui explique également tout ce qui est première impression. Automatiquement, le cerveau, en fait, c'est un programme évolutif de se faire des premières impressions. C'est évolutif, c'est la sécurité qui l'emporte par rapport à la raison, encore une fois. Après, le système 2, lui, est plus analytique, il est plus dans la projection, voire carrément vers le futur également. Quelles vont être les conséquences de mes actions? Et le système 3, comme tu l'as dit, du coup, c'est la capacité à prendre du recul par rapport à ses biais, c'est bien ça, pour
Et à
savoir qu'ils
résister à
existent.
mes automatismes. C'est ce qu'on
Voilà, pour
appelle le
résister aux
contrôle
biais. Ok.
inhibiteur. Et l'idée, c'est justement, en gros, il est là pour tirer le fil. Dans tous les cas, mon système 1, il va répondre en premier. Parce que c'est ma réponse rapide, c'est ma réponse adaptative qui me dit, voilà, faut que je sache tout de suite, que je me fasse une première impression des choses et de savoir comment je dois réagir. Et ensuite, si cette réponse, elle me convient, mon système 3, il la laisse passer et finalement, j'ai réagi de cette façon-là. Si par contre, cette réponse, il y a un petit système dans mon cerveau qui me fait me dire que c'est peut-être pas la bonne solution, et bien là, j'ai mon système 3 qui va retenir ce premier système rapide pour laisser le temps au système 2 d'analyser la situation et de prendre une décision qui est plus lente.
C'est
Mais
vrai, c'est un côté
faut bien retenir,
méta-analyse
c'est
en
quoi?
fait. On prend de la hauteur par rapport à soi-même. On se voit
Exactement.
surréagir en quelque sorte ou mal réagir en quelque sorte pour dire ok, là ça ne va pas, mon comportement n'est pas adapté à la situation. Je prends un pas de recul pour laisser en place, bah pardon, le temps au système 2 de se mettre en place.
Exactement. Et c'est
Ok.
pour ça qu'on en reparlera que c'est aussi important aujourd'hui de développer ce qu'on appelle sa métacognition, c'est-à-dire apprendre à se connaître soi-même et aussi être capable de savoir comment je fonctionne et donc de résister à un certain nombre de mécanismes. Si j'ai même pas conscience de ces mécanismes qui opèrent, je vais avoir du mal à résister.
Ok. Avant de rentrer dans le détail du comment faire, du moins les premières actions à mettre en place pour développer son système 3, est-ce qu'on peut déjà commencer par classer un peu les biais? Parce que des biais, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a un super outil qui s'appelle le Codex des biais cognitifs, qui est à la fois beau et effrayant, tellement il y en a.
Exactement.
Et en fait, effectivement, toi, tu utilises une méthode de classification qui est issue du travail d'Olivier Siboni, il me semble, pour les répartir en trois ou quatre groupes différents, c'est ça?
Exactement. En fait, l'idée, c'est que le codex, c'est, on va dire, la Bible des biais cognitifs. Il y en a plus de 250, il y en a d'autres qui se rajoutent parce que c'est des travaux extrêmement précieux issus de la psychologie comportementale, de l'économie comportementale. Il y a énormément de, voilà, c'est vraiment tous les biais qui existent, plus de 250. Et donc, forcément, quand on se plonge dans cet outil, ou quand nous, on arrive en formation et qu'on le met entre les mains de nos apprenants, il y a l'effet panique. Et donc, évidemment, il y a, alors, ce qui, le codex, il est très bien, il est aussi catégorisé. Il est catégorisé en quatre grandes parties qui on peut trouver facilement et qui est très bien illustrée, qui est justement plutôt axée sur les mécanismes cognitifs, c'est-à-dire la façon dont mon cerveau va avoir besoin de trier l'information. Donc ça répartit les 250 biais en quatre catégories: agir vite, mémoriser efficacement, donner du sens à mon environnement et trier l'information pertinente. C'est une catégorisation qui est très intéressante, mais qui, et qui, moi, c'est celle que j'ai apprise initialement. Sauf que nous, quand on a commencé à créer nos outils et nos formations sur les biais cognitifs, on en a discuté, on a fait ce qu'on appelle une étude prospective auprès de grand nombre de collaborateurs, managers, etc., pour leur demander, voilà, ce qui leur paraissait le plus pertinent par rapport à leur quotidien de travail. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y avait une petite préférence pour une autre catégorisation qui a été proposée par Olivier Siboni dans son livre Vous allez commettre une terrible erreur, qui est en fait plutôt de catégoriser les biais sur le résultat, c'est-à-dire l'impact que ça va avoir sur le comportement. Et donc c'est celle que nous, on a choisi ensuite, ben, voilà, de pousser dans les jeux qu'on a développés, les supports et les outils qu'on développe, parce qu'elle est apparue comme plus opérationnelle pour les collaborateurs. Et donc les cinq catégories, la première, c'est des biais de raccourcis mentaux. C'était de modèles mentaux, donc justement tous mes raccourcis mentaux qui vont faire que je, voilà, tous mes automatismes de pensée. Deuxième catégorie, c'est les biais d'action. Si je résume, c'est les biais qui vont me faire agir trop vite ou agir pas forcément dans la bonne direction. À l'inverse, je vais avoir les biais d'inertie, c'est-à-dire des biais qui, au contraire, vont me pousser à ne pas agir. Donc, c'est ceux qu'on va retrouver voilà, dans tout ce qui est résistance au changement. C'est ceux qui vont me pousser à rester dans mon statu quo et à refuser de passer à l'action et qui vont me limiter ma capacité d'agir. Et ensuite, j'ai les biais d'intérêt, c'est-à-dire les biais qui vont faire que, même si c'est pas la solution la plus rationnelle ou la meilleure solution pour le collectif, je privilégie mes intérêts à moi parce que ça a un intérêt pour moi, cette solution. Donc les biais d'intérêt. Et les derniers, c'est les biais de groupe. C'est ces biais qui font que si je suis seule dans mon lit en train de prendre une décision à tête reposée, je vais pas prendre la même que si je suis dans un collectif avec un groupe et que je vais me laisser forcément influencer par la pensée collective, par l'ordre dans lequel les opinions sont exprimées, ou tout simplement par les personnes qui sont à côté de moi et qui ont exprimé, voilà, qui ont peut-être un certain charisme ou mon supérieur, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les biais de groupe. Donc les cinq catégories, c'est les biais de modèles mentaux, les biais d'action, les biais d'inertie, les biais d'intérêt et les biais de groupe. Et donc cette catégorisation, elle nous a apparu comme étant voilà, assez opérationnelle pour pouvoir se projeter directement sur en quoi ça me limite et du coup quelles actions je pourrais mettre en face pour limiter leur impact.
C'est intéressant cette notion de groupe. On le voit très souvent, effectivement, quand les décisions collectives diffèrent vraiment des décisions individuelles. C'est
Tout à
quasiment
fait.
systématique et il y a un très bon livre par rapport à ça, c'est La psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui en parle vraiment et c'est impressionnant de voir l'inertie et tout ce qui peut se créer autour d'un effet de groupe qui n'aurait jamais émergé avec la somme des individus.
Exactement. C'est un effet qui est extrêmement puissant dans les deux sens. C'est-à-dire que ça va nous entraîner sur des biais, comme par exemple le biais de l'effet spectateur. C'est-à-dire que plus on est nombreux, moins je vais penser que c'est de ma responsabilité d'agir. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir finalement tout le monde se regarde, personne n'y va, personne ne va aider quelqu'un, parce qu'en fait, pourquoi ce serait à moi de le faire alors
Comme
que
durant
la
des
personne
agressions dans la
ne
rue.
le fait pas. Des agressions dans la rue, ou c'est ce qui explique aussi en partie aujourd'hui l'inaction climatique. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi moi, j'arrêterais de manger de la viande, j'arrêterais de prendre l'avion si mon voisin, mon gouvernement ne le fait pas. Donc il y a un côté, voilà, diffusion de la responsabilité liée à cet effet de groupe. Et à l'inverse, vu qu'on est un animal social, c'est un levier qui est extrêmement puissant parce qu'on déteste être mis de côté, de ne pas faire comme les autres. Donc à l'inverse, si j'ai un leader qui impulse quelque chose, si j'ai dans une entreprise mes équipes qui voilà qui la culture d'entreprise qui fait qui pose un certain nombre de bases, mais forcément moi je vais avoir envie de les suivre par effet moutonnier parce que je vais suivre ce que fait le collectif. Donc les biais de groupe, il y a voilà, des pendants positifs, des pendants négatifs, mais c'est peut-être les biais les plus puissants. Puisque nous, intrinsèquement, il y avait deux choses. C'était un, avoir des automatismes pour survivre, mais deux aussi, faire ce que font les autres. Si j'ai 89, enfin, 9 personnes sur 10 qui courent dans une direction, la logique, c'est que je cours aussi. C'est sûrement qu'ils ont vu un danger que moi, j'ai pas perçu.
On en revient encore une fois à la survie. On
Tout
sait
à
que
fait, bien sûr.
l'individu seul, à la préhistoire, ne survivait pas.
Tout à fait.
D'où le fait que tout ce qui est séparation, rupture, isolement, soit vraiment douloureux au sens physique du terme. Au niveau
Ouais.
vraiment cognitif, des processus proches des douleurs physiques se mettent en place, notamment par l'inhibition de la production d'ocytocine et une surproduction de cortisol en parallèle.
Exactement. Et l'ocytocine, c'est une hormone qui est clé. Et dans les, on en reparlera peut-être, mais dans les changements de comportement et changements d'habitude, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit toujours c'est difficile de faire changer un groupe. Oui, mais à l'inverse, changer tout seul, c'est pas forcément plus simple. Parce que justement, on a besoin des autres, on a besoin d'un collectif pour se sentir, voilà, pour prendre part à ces changements. Et donc, on est très, très influencé, par notre côté social et par le groupe.
Les notes, je le montre aussi vraiment, vraiment assez bien. Beaucoup d'hôtels mettent maintenant, non pas arrêter de voler les serviettes, mais 90% des clients laissent les serviettes dans l'hôtel. Comme ça, on se
Absolument.
conforme au groupe directement et donc on a tendance à laisser la serviette. C'est un exemple un peu comme ça
Ouais,
dérisoire,
tout à fait.
mais c'est vrai que ça marche vraiment comme pour les mégots de cigarettes.
Exactement.
Ça fonctionne
Si
très
je
bien
vois, mais
également.
c'est le cas. Enfin, moi, je sais qu'on le vit au quotidien dans les entreprises, des choses où on essaye de rappeler des règles, on rabâche, on rabâche, on rabâche, et puis qu'ensuite, quand on parle aux collaborateurs, on dit, mais attendez, le chef, lui, quand il vient, il le fait pas. Alors nous, finalement, la preuve par l'exemple, oui, dans la théorie, il y a des concepts, mais dans la pratique, on voit que ce n'est pas forcément les automatismes de tout le monde. Et à l'inverse, si par contre, j'ai 90% de personnes dans mon entreprise, on l'a vu avec le tri des déchets. C'est quelque chose qu'on a énormément intégré. Moi, les premiers voyages que j'ai faits quand j'allais dans les pays nordiques, quand j'étais plus jeune, je me disais, c'est fou, nous, on ne fait absolument pas le tri. Eux, ils ont 5 poubelles et ça leur paraît complètement normal. Et aujourd'hui, nous, c'est devenu... Tout seul, c'était difficile à faire. Maintenant que tout le monde le fait, j'aurais beaucoup de mal à prendre ma poubelle et à l'acheter dans la mauvaise poubelle, alors que finalement, tout le monde est en train de me montrer une autre action. Donc, par conformisme social, je vais adopter un certain nombre de comportements sans même me poser la question, mais parce que je vois tout le monde le faire.
Super intéressant. Maintenant, je propose qu'on balaye quelques biais ensemble. Pour rentrer un peu dans le concret, j'ai sélectionné quelques biais que je t'ai suggérés et proposés. Tu les as validés. Et j'aimerais commencer par un biais qui est assez présent et qui vraiment peut poser problème en quelque sorte assez régulièrement aux personnes, le biais de confirmation, qui peut littéralement limiter la compréhension du monde qui nous entoure. Parce qu'on va chercher à confirmer une opinion de base en prenant les informations qui valident l'opinion et non pas à infirmer l'opinion en question. Est-ce que tu veux en parler un peu de ce biais de confirmation?
Effectivement, ce biais de confirmation, c'est le fait que forcément, je vais privilégier toutes les informations qui vont renforcer mes croyances préconçues plutôt que d'aller chercher les informations qui vont me faire changer d'avis. Donc, en gros, c'est un peu contraire à la démarche scientifique. En science, quand on veut publier un papier, on se dit, moi, j'ai mon hypothèse et je vais devoir aller chercher au contraire à infirmer ou confirmer l'hypothèse contraire pour savoir si finalement il y a des arguments contre ce que moi j'avance. Et c'est si je ne trouve pas d'arguments, je vais pouvoir supposer que mon hypothèse est vraie. Et le biais de confirmation, c'est totalement l'inverse. C'est moi, j'ai des opinions, et plutôt que d'avoir une vision un petit peu de détective ou en tout cas de scientifique, de me dire je vais aller chercher toutes les informations de façon objective, je vais aller au contraire aller chercher que les informations qui confirment ce que je pense déjà. Et donc, c'est ce qui va en fait enfermer tout le monde dans des positionnements de plus en plus radicaux, parce que tout le monde est persuadé d'avoir raison, et surtout tout le monde est persuadé que tout le monde pense comme lui. Et c'est énormément renforcé par les algorithmes qui sont dans nos réseaux sociaux, par la façon dont on va, en fait, notre cerveau va se focaliser sur les informations qui confirment. Donc quand je vais, par exemple, je suis climato-sceptique, je ne crois absolument pas au réchauffement climatique, bah tiens, je vois qu'il pleut en juillet, bah, je vais tout de suite, ça va faire un pop-up dans mon cerveau à me dire, il pleut en juillet, on me parle de réchauffement climatique. Et je vais aller chercher l'information qui confirme, et donc ça ne va faire que au fur et à mesure qu'on confirme mes choix.
C'est ce qu'on appelle communément le cherry picking aussi. Sélectionner entre guillemets les bonnes cerises, donc les bonnes informations qui corroborent avec nos pensées. Et à nouveau, on est vraiment sur une notion d'économie de ressources cognitives.
Exactement. C'est que ça va coûter un effort. C'est un effort. C'est un coût pour notre cerveau de devoir changer d'avis. Ça m'oblige à faire un pas de côté, à aller chercher justement d'autres informations, à comparer des informations, à me confronter à d'autres opinions. Et donc, ça va me demander un effort. Un effort qui, parfois, le coût de se tromper est moins important que le coût de chercher la bonne information. Donc, je préfère avoir tort, même limiter mes efforts. Il faut vraiment comprendre que le cerveau, son principe, son premier principe, c'est le principe du moindre effort. Il va prendre la décision la plus adaptée à la situation, mais aussi la plus rapide. Si finalement, il n'y a pas forcément de point de friction, de dissonance entre ce qui est ma croyance et ce que j'observe dans le quotidien, mais finalement, j'ai pas forcément de bonnes raisons de changer d'avis ou d'aller chercher d'autres opinions. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, si on regarde un débat politique et qu'on regarde deux personnes qui s'affrontent, les partisans de chacun des partis vont avoir l'impression que leur candidat a été le meilleur. Parce qu'en fait, chacun dans le débat va être allé chercher les informations qui vont confirmer sa croyance que son candidat s'en est mieux sorti. Et donc à la fin, on n'a jamais une vision objective ou holistique de la réalité, on a juste une version voilà, subjective, une vision biaisée de comme par rapport à ce que l'on pense en amont et a priori.
Et il y a également une notion d'identité, je pense, par rapport à ce biais-là. Parce que qui dit remettre en question ses avis, ses points de vue, ses connaissances, dit également changer son identité qui est propre, qu'on a construite pendant des années potentiellement. Par exemple, remettre en question une habitude qui pour nous était vertueuse, mais qui s'avère ne pas l'être au final. En fait, on s'est accolé l'étiquette de la personne qui fait cette action au quotidien. Et donc, en supprimant cette action, on perd un peu de notre identité. Donc, un élément sur lequel on s'est construit par rapport aux autres.
Ouais, tout
Donc
à
je
fait.
pense qu'il y a également cette perte de repère-là, ce changement de paradigme, on va dire, qui peut effrayer le cerveau, parce que, à nouveau, le coût énergétique est monumental derrière.
Ouais, il y a un des quatre piliers dont on parlait, il y avait agir vite, trier l'information, mémoriser efficacement, mais un des plus importants, c'est donner du sens. Et notre cerveau, il veut donner du sens à ce qu'il vit et donner du sens à son environnement, mais aussi donner du sens à ses propres comportements. Il ne veut pas être le méchant de l'histoire ou il ne veut pas se dire qu'il a agi sans aucune raison ou pour de mauvaises raisons. Donc il va reconstruire parfois a posteriori des bonnes raisons, une belle histoire. Et donc changer de paradigme, changer d'avis, ça veut dire qu'avant, on a pris de mauvaises décisions et qu'on le reconnaît et qu'on a adopté des comportements qui n'étaient pas forcément les bons. Et donc c'est quelque chose qui a un coût énorme pour notre cerveau parce qu'on perd dans la cohérence et on se retrouve dans une situation qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cohérence entre ce que je crois et finalement ce que je fais. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement inconfortable pour le cerveau. Et dans ces cas-là, face à la dissonance cognitive, on a un petit peu trois façons de faire. On a soit je vais faire l'autruche, c'est-à-dire je mets ma tête dans le sable et en fait, justement, je plonge dans mon biais de confirmation et je fais comme si tous les autres arguments n'existaient pas pour ne pas changer d'avis. Soit je vais être obligée, du coup, d'aller dans le changement, d'aller dans l'action pour justement remettre, réaligner mes nouvelles croyances avec les comportements que j'adopte. Et puis
Ce qui
après, il y a
explique
aussi
également
la
qu'il est
troisième
compliqué de...
possibilité, c'est de se retrouver dans de l'anxiété parce que justement, je n'arrive pas à passer à l'action, mais je vois que je suis plus en phase. Et donc, c'est aujourd'hui une des raisons de l'éco-anxiété qu'on entend un petit peu partout.
Super intéressant. Et ça explique également le fait que faire changer quelqu'un de comportement est très dur. Parce que, à nouveau, la personne ne voudra pas faire les efforts physiques, cognitifs pour changer le comportement qu'elle adopte depuis des années et des années. Et c'est pour ça que pour faire changer quelqu'un, il faut y aller petit pas par petit pas, et non pas de façon brusque d'un coup.
Tout à fait. Il faut comprendre que le changement est un coût et que notre cerveau, par principe de moindre effort, il est à la fois stimulé par le changement parce qu'il y a de nouvelles choses, de nouveaux challenges, mais à la fois c'est quelque chose qui cognitivement va lui demander des ressources. Et c'est contraire au principe de moindre effort. Au lieu au contraire de plonger dans mes automatismes et de ne faire aucun effort pour prendre un certain nombre de décisions, je vais au contraire devoir me désautomatiser, donc en fait désapprendre un certain nombre d'automatismes et d'habitudes que j'ai pour en apprendre des nouvelles. Et donc forcément, ça va avoir un coût. Et donc, penser que ça n'a pas de coût, penser que c'est un manque de motivation ou que c'est un manque de... C'est mal comprendre le cerveau parce qu'en fait, c'est juste que notre cerveau, justement, il va mettre tous les freins pour éviter ces efforts-là. Et donc, il va falloir énormément accompagner le changement, tu l'as dit, par des tout petits pas pour justement quand même être dans des boucles vertueuses et avoir l'impression que ce changement, il me conduit, enfin, qu'il est facile pour moi.
Et montrer aussi le bénéfice également au cerveau derrière en termes de ressources qui vont augmenter, en termes de temps gagné, de relations gagnées, d'argent gagné ou d'énergie économisée.
Exactement, le cerveau, il ne marche que par feedback. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il a un feedback. Soit un feedback de l'environnement, tiens, j'essaie de faire du vélo, j'ai mal mis mon pied sur la pédale, le feedback, je tombe, le feedback, il est direct et il vient de mon environnement. Soit il vient de moi-même, soit il vient des autres, parce qu'on me dit que mon comportement n'est pas adapté. Mais en tout cas, il va marcher à chaque fois, action, feedback et récompense. Et donc, le cerveau, effectivement, quand il va faire des, il va changer, il va avoir besoin de tester de nouvelles choses et d'avoir tout de suite des récompenses immédiates pour justement continuer, se dire que qu'il est dans la bonne direction et qu'il continue dans un cercle vertueux.
Et c'est en ça que le système scolaire est un peu mal fait, parce qu'il n'y a pas cette notion de retour immédiat sur action. On attend souvent plusieurs jours, plusieurs semaines pour avoir un retour par rapport à un devoir rendu, et la notion de récompense n'est pas présente. À l'inverse des jeux vidéo, où dès que tu fais la moindre erreur, c'est punitif. Mais tu apprends de l'erreur et tu peux rebondir et tu as la récompense au bout du chemin.
C'est ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est qu'on apprend uniquement par essai-erreur. Et effectivement, il faut que le feedback soit au plus proche de l'action pour être efficace. Et si on me donne mon devoir 3 jours après, ou alors en fait j'ai appris pendant 15 jours d'une mauvaise façon, ensuite je l'ai exprimé d'une mauvaise façon dans mon devoir, et ensuite je n'ai que 3 jours ou une semaine après le retour sur le feedback qui me dit que c'est pas bon, il va falloir que je déconstruise tout ce que j'avais construit comme fil de pensée pour aller réapprendre. Et donc ça va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts, et donc voilà, ça va être beaucoup plus difficile à faire.
Et en plus, le feedback en question, souvent c'est une note pour l'école qui ne veut au final rien dire. Ce n'est pas un vrai feedback détaillé de là où il y a eu des erreurs, là où on peut s'améliorer, là où on peut progresser. On est vraiment sur une notion globale et non pas micro des choses.
C'est ce qu'on essaye, nous, aujourd'hui, de beaucoup travailler en entreprise, c'est travailler sur ce qu'on appelle l'erreur pertinente. C'est-à-dire que l'erreur, elle veut dire quelque chose. L'erreur, elle veut pas juste dire que c'est mauvais ou que c'est pas bon. Elle veut dire que soit j'ai pas pu, soit j'ai pas su, soit j'ai pas voulu. En tout cas, enfin, elle a une source. Et la source est extrêmement intéressante à creuser, à comprendre. Et donc, on est beaucoup, nous, aujourd'hui, dans la sanction de l'erreur, au lieu de voir l'erreur comme justement quelque chose de pertinent sur lequel je vais pouvoir rebondir et me dire que voilà, je vais pouvoir apprendre autrement et que c'est quelque chose de positif. Et que de toute façon, on n'apprend que par essai-erreur. Donc l'erreur est nécessaire pour apprendre ensuite le bon chemin.
Je fais un aparté, mais comment est-ce qu'on peut cultiver justement cette volonté de faire des erreurs? Chez un enfant notamment, et même chez un adulte. Comment est-ce qu'on peut désapprendre le fait qu'une erreur, malheureusement, c'est négatif?
Aujourd'hui, c'est extrêmement ancré dans notre culture, qui est que l'erreur appelle sanction. Et que s'il n'y a pas de sanction, eh ben on ne va pas comprendre de nos erreurs. Alors qu'à l'inverse, l'erreur devrait plutôt appeler réflexion, à faire justement ce pas de côté, à se dire pourquoi j'ai fait cette erreur et comment demain je ne peux ne plus la faire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre dès l'enfance et qu'il faudrait apprendre dès l'école, parce qu'aujourd'hui, on en paye les pots cassés chez les adultes, qui est que c'est un réflexe que l'on n'a pas. Aujourd'hui, on va toujours chercher le coupable, chercher à sanctionner, on va virer la personne qui a raté le projet, sans forcément faire attention au contexte qui en faisait partie. Donc peut-être, moi, j'ai pas la réponse, mais tout ce que moi je vis au quotidien, par exemple avec mes enfants, c'est de me rendre compte que sanctionner une erreur ne permet pas cet apprentissage. Au contraire, ça va le bloquer, enfin en tout cas, ça va bloquer les enfants sur quelque chose d'extrêmement négatif qui du coup va être associé à plein d'émotions négatives, et le stress et les émotions négatives vont être au contraire des inhibiteurs de l'apprentissage. Donc au contraire d'apprendre de mon erreur, je vais ne pas savoir comment lutter, la faire autrement, et être par contre tétanisé dans ma capacité d'action. Donc je vais limiter mes capacités d'agir ou renforcer des comportements négatifs, ou en tout cas limiter ma perdre en confiance en soi. Donc ce qu'il faudrait réussir à faire au quotidien et avec tous les adultes aussi en entreprise, c'est de développer cette culture du feedback pour que le feedback il soit toujours rapide, au fil de l'eau, tout de suite, automatique, mais qu'il soit toujours bienveillant pour dire ok, cette erreur, tu l'as faite, j'aurais pu la faire, ou quelqu'un d'autre aurait pu la faire, ou pourquoi on l'a faite. Et donc voir est-ce que ça vient du contexte qu'il va falloir changer, parce que si c'est toi aujourd'hui, ça peut être un autre demain, ou est-ce que c'est lié à un élément que t'as pas compris. Bref, comprendre la source de l'erreur pour essayer d'y remédier.
Super intéressant. Et pour conclure sur le biais de confirmation, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ce piège-là, entre guillemets? Comment est-ce qu'on peut prendre ce pas de recul pour se dire, ok, là je confirme simplement mes hypothèses de base et je ne cherche pas potentiellement à les infirmer ou à voir ailleurs?
Alors déjà, en termes de posture, ça va être déjà développer son humilité. apprendre qu'on n'a pas toujours raison et refuser aussi de dire que l'on a toujours raison ou qu'il n'y a qu'une façon de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur des pensées, des croyances qui sont parfois très radicales, où il y a des personnes, certaines personnes qui pensent détenir un savoir qui doit être unique et tous les autres ont tort. Se dire qu'il y a toujours dans la pensée d'autrui, par l'écoute active, par le questionnement, peut-être des informations qui peuvent être pertinentes pour moi, enrichir aussi mon positionnement. Donc développer son esprit critique et puis après être en capacité aussi alors des petits outils simples, par exemple d'utiliser ce qu'on appelle la stratégie du test négatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois moi que j'ai une solution, que j'ai une option, et ben essayer plutôt d'aller voir toutes les hypothèses contraires pour voir si finalement il n'y a pas d'autres voilà d'autres éléments que je n'ai pas encore explorés et qui pourraient me montrer que j'ai tort.
Une méthode vraiment intéressante également, souvent utilisée en réunion, bah du moins souvent, pas assez à mon goût, qui s'appelle le pré-mortem. En fait, qui consiste simplement, non pas à se dire, ok, comment on pourrait faire en sorte que ce projet soit un succès, mais qu'est-ce qui ferait que ce projet échouera? Et vraiment lister toutes les choses, même potentiellement qui sont juste farfelues, mais pour montrer tous les angles d'attaque qui peuvent potentiellement nuire à un projet, nuire à une réflexion, nuire à une pensée.
Ouais, tout à fait.
Et est-ce qu'on peut tisser un lien rapidement entre le biais de, le biais de mince de
La confirmation.
confirmation dont on vient de parler et l'effet Dunning-Kruger?
Alors, oui, effectivement. Alors, l'effet Dunning-Kruger, c'est l'effet par lequel moins je vais être compétent sur un sujet, plus je vais être dans ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Il y a de jolis schémas. Ou en tout cas, plus je vais avoir confiance en moi. Donc en fait, c'est un effet de surconfiance. C'est un effet qui, justement, alors que j'en sais peu ou que je me suis peu renseignée et que, justement, j'ai pas la vision objective ou holistique d'un sujet, je vais avoir l'impression de le maîtriser et d'être surperformant. Aujourd'hui, c'est un problème qui est très important parce qu'en fait, vu que l'information est de plus en plus disponible pour tous et partout, il est facile de se dire, tiens, j'ai lu un livre, en fait, je sais tout et en fait, je suis expert. Et donc d'avoir cet effet de surconfiance. Et plus on va avancer dans un sujet, plus finalement on va se rendre compte que le sujet, il est vaste, il est complexe, il n'est pas si simple que je l'avais compris en lisant un livre. Et donc finalement, plus, en tout cas, plus je vais être compétent, moins finalement je vais avoir confiance en moi.
Et également, tu as l'effet inverse, que plus une personne a une expertise sur un sujet donné, moins elle se sent sachante
Bah,
dans
plus
ce
elle a
sujet en
conscience
question.
que le sujet est complexe et que le sujet ne peut pas forcément avoir que être tout blanc ou tout noir, qu'il n'y a pas forcément qu'une position, qu'elle peut être aussi challengée et remise en question. C'est le principe même de la réalité scientifique, c'est que une vérité d'aujourd'hui est peut-être pas la vérité de demain, et que en fait finalement la vérité d'aujourd'hui n'est que pour l'instant n'a pas trouvé de preuve contre ou d'hypothèse contraire ou d'argument qui pourrait valider l'hypothèse contraire. Mais il faut toujours rester. Quand on est expert d'un domaine, on se rend compte qu'il y a toujours possibilité que les hypothèses évoluent, que mes a priori évoluent, que les postulats changent, et donc finalement que ma compétence d'aujourd'hui ne soit plus celle de demain.
Est-ce qu'on peut du coup tirer selon toi un rapport ou pas du tout, hein, c'est une idée qui me vient à l'esprit dès maintenant, entre l'expertise d'une personne et le biais du coup de confirmation. Plus une personne est sachante dans un domaine, moins elle sera sujette dans ce domaine en question évidemment, pas aux autres, au biais de confirmation.
En tout cas, plus elle va avoir une vision objective du sujet, une version des différentes hypothèses. Et plus, mais je pense qu'il y a le côté sachant, mais il y a aussi certains experts qui sont pas forcément dans cette posture. Le biais de confirmation, c'est un biais qui est inconscient. Et on a toujours tendance à vouloir se dire, pour justifier, donner du sens, à se dire qu'on a raison. Et c'est vraiment plutôt lié à la culture scientifique, selon moi, qui est de dire, même si je sais, je vais quand même aller chercher les hypothèses contraires pour vérifier d'autres hypothèses. Et donc il y a l'effet de l'expert qui, plus il est sachant, plus il est expert, plus il va avoir une vision objective, donc moins sujet au biais de confirmation. Mais il y a aussi, vu que mon biais de confirmation, il est instinctif, il est inconscient, cette volonté par la méthode scientifique et par la rigueur scientifique de se dire, moi je sais, voilà mon hypothèse, voilà ce que j'ai, en plus confirmer ce que j'ai observé, mais finalement je vais aller faire appel à un critical friend ou à un avocat du diable pour aller justement confronter mes pensées. C'est le principe même quand on fait une publication d'aller demander l'avis des pairs. C'est finalement moi j'ai un avis, est-ce que finalement dans mon papier scientifique, dans ma publication, j'ai pas juste enfoncé des portes ouvertes en allant chercher l'information qui confirmait ce que je pensais et mes hypothèses au départ. Et donc ça, en demandant l'avis des autres et en demandant à confronter mon opinion, et bien finalement je vais pouvoir sortir de ces ornières et enfin en tout cas ouvrir un petit peu mes ornières et sortir de mon biais de confirmation.
Ok, merci. Un autre biais également qui est intéressant, tu parlais précédemment de prise de décision il y a quelques minutes en arrière.
C'est le biais de rétrospection. Donc un biais qui, du coup, forcément a un impact sur les prises de décision. Peux-tu en parler? Peux-tu le présenter? Et montrer en quoi il impacte potentiellement sa capacité à décider efficacement.
En fait, le biais de rétrospection, c'est le fait que, a posteriori, je vais justifier mes décisions ou les événements qui se sont passés, comme plus probables ou plus prévisibles qu'ils ne l'étaient. En fait, c'est un peu l'effet, ah ouais, en fait, ça, je le savais. Et en fait, c'est donc a posteriori, de façon rétrospective, je vais aller justifier, en fait, du nez du sens. On revient sur les mêmes piliers que tout à l'heure, à donner du sens à mon histoire et trouver de la cohérence dans mes comportements. Et donc, le biais rétrospectif, il est là pour ça. Il est là pour donner du sens à ce qui s'est passé. Et finalement, notre cerveau, il est assez mauvais pour faire des prédictions sur le futur. Il est très bon pour réagir et s'adapter rapidement à la réalité, au présent. Mais par contre, il est assez mauvais, enfin, en tout cas, il va faire des projections sur le futur. Et donc, dans le biais rétrospectif, je vais aller chercher des bonnes raisons a posteriori de justifier un comportement qui s'est déjà passé. C'est juste par rapport au fait que mon cerveau, il fait de mauvaises probabilités et qu'il s'est peut-être trompé précédemment. Et vu qu'il déteste le hasard, il va essayer de raconter une histoire et de raconter a posteriori une histoire qui est cohérente comme s'il le savait déjà. Alors qu'au moment où il avait pris la décision, il n'avait pas les données disponibles pour être sûr et pour pouvoir prédire ce qui allait se passer.
C'est un biais qu'on retrouve très souvent dans les biographies et autobiographies. On vient réenchanter son passé, entre guillemets, pour
À la
justement faire en sorte
lumière.
que toute l'histoire soit cohérente à la lumière du résultat qu'on a aujourd'hui. Si j'ai pris telle décision quand j'avais 7 ans, ça m'a conduit à ça aujourd'hui. Non, c'est beaucoup
Exactement.
plus
C'est
complexe que
donner
ça
de
en
la
vrai.
cohérence. En fait, c'est pour donner de la cohérence à ce qu'on a vécu et se dire que tout avait une bonne raison d'être et que tout aurait pu être prédit et toutes les choses sont en bon endroit. Le cerveau, il n'aime pas le hasard et du coup, il va vouloir raconter cette histoire la plus cohérente possible. Avec le risque, à l'inverse, de quand on fait ce genre de remarques a posteriori, par exemple, sur des projets en entreprise, de dire, mais ça, moi, je savais depuis le départ que le projet, il allait pas marcher. Et dans ce cas-là, on a un peu tendance à surresponsabiliser les acteurs dans leur choix en disant, mais en fait, moi, je le savais déjà, t'aurais dû le savoir, t'aurais dû pouvoir le prédire. Et c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Alors que finalement, sur le coup, le futur, il était incertain, il était difficilement prédictible. Et la personne, quand elle a fait son choix-là, c'était le choix qui lui paraissait être le plus adapté par rapport aux éléments de contexte qu'elle avait à sa disposition.
Et de ma lecture des choses, ce biais-là, du coup le biais de rétrospection, donne de l'eau au moulin, on va dire, au biais du survivant également. Où justement, on aura tendance à, donc le biais du survivant qui fait simplement qu'on va prendre pour exemple les personnes qui ont survécu sans prendre pour exemple les personnes qui ont échoué. Typiquement, je sais pas, un boxeur explique qu'il faisait, je sais pas, 20 km de course tous les matins, et c'est grâce à ça qu'il est devenu champion du monde de boxe. Et en fait, on va prendre lui pour exemple, on va calquer notre comportement sur le sien sans penser à toutes les personnes qui ont fait la même chose, mais qui ne sont pas devenues championnes du monde de boxe. L'exemple est un peu stupide, mais voilà ce que veut dire ce biais-là. Et selon moi, effectivement, les personnes qui réécrivent leur histoire, qui viennent la réenchanter, qui viennent mettre en évidence que tous les comportements que eux ont eus durant des années et des années ont permis un tel résultat, vient renforcer cette notion de biais du survivant, où on va venir directement piocher des éléments de comportement de ces personnes en question pour espérer obtenir le même résultat que ces personnes-là. Est-ce que j'ai
Et on
été
peut à
clair?
nouveau refaire le lien avec le biais de confirmation, c'est qu'effectivement, en
Bien
cherchant
sûr.
les exemples de ceux qui ont réussi, ou en tout cas les exemples qui illustrent ce que je veux croire et ce que je veux penser, ben finalement, je vais me focaliser à nouveau sur une croyance, alors que je n'ai peut-être pas tenu compte du contexte, et peut-être qu'effectivement, il faisait qu'un 20 km de course, mais qu'il avait peut-être totalement d'autres choses, d'autres éléments de contexte qui expliquent plus sa réussite, mais je vais me focaliser sur un élément, et je vais réécrire l'histoire par rapport à cet élément-là.
Super intéressant. Il y a un biais également qui est très utilisé, notamment en marketing, qui est le biais d'ancrage, notamment au niveau des prix, dont je me servais à une époque pour négocier les biens immobiliers. Et c'est un biais qui est très puissant. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de poser un cadre, même niveau éducatif, s'il est très puissant. En fait, qu'est-ce que le biais d'ancrage? Simplement, c'est donner l'impression d'une liberté dans un cadre qu'on a posé à la base. Par exemple, dire à son enfant, tu t'assois sur le canapé ou sur la chaise, tu choisis. Au lieu de lui dire tout simplement, est-ce que tu veux t'asseoir? C'est différent. Parce qu'on laisse soit la liberté totale de répondre oui ou non, je m'assois, ou soit le fait de je m'assois oui, mais soit sur le canapé, soit sur la chaise. Est-ce que tu veux parler un peu également de ce biais-là qui est très puissant et qui est vraiment présent au quotidien? Notamment les soldes, c'est un biais d'ancrage. C'est on passe de tel prix à
Totalement.
tel prix. Il n'y a que des biais d'ancrage aujourd'hui parce que le cerveau fonctionne par comparaison.
Exactement.
Donc il va venir directement comparer deux éléments entre eux en faisant fi de tous les éléments qui vont autour. Parce qu'on a posé un cadre autour des deux éléments en question.
Effectivement, notre cerveau, il voit pas la réalité de façon rationnelle ou de façon objective. Il va percevoir par contraste. De la même façon que je vais percevoir le contraste entre deux couleurs, je vais percevoir le contraste en fait entre deux situations. Et donc mon cerveau, il va avoir tendance à se fier à, enfin en tout cas, à la première information qui est rencontrée. Et ça va poser une encre inconsciente, donc et dont il a absolument pas conscience, mais qui va conditionner le reste de la prise de décision. Et c'est le cas, tu l'as dit, avec les soldes. Quand j'entre dans un magasin et que j'avais un prix initial, ça me forge une encre. Et quand le prix est soldé, j'ai l'impression du coup que ça vaut le coup, en tout cas de faire une super affaire, et donc je suis plus enclin à l'acheter parce que j'ai l'impression que le prix a diminué. Et donc aujourd'hui, c'est un outil qui est très utilisé par les vendeurs et dans la vente, parce que je sais forcément que le premier prix que je vais donner, ça va poser la première encre, et derrière, je vais pouvoir négocier. Donc c'est les bases de la négociation, mais en tout cas, on n'oubliera jamais cette première encre, cette encre pendant tout le processus de la décision. Et on le comparera toujours à celui-là. Donc je peux à la fin finalement, si le vendeur m'a dit que la voiture coûtait 40 000 euros, qu'il la consent à me la laisser à 38 000 euros, me dire que j'ai fait une bonne affaire et être d'accord pour payer ce prix-là. Et si à l'inverse, juste avant de venir, j'ai vu la même voiture à 35 000 dans un autre magasin, mon encre, ma première information, mon encre, ça va être le 35 000. Et du coup, je consentirai plus du tout à payer les 38 000 que me propose ce vendeur, alors que lui a l'impression de faire un effort et me dit que c'est un bon prix.
Et en immobilier, typiquement, moi, je baissais vraiment le prix très, très bas au départ, proposais parfois 20, 30, 40% en moins pour que la nouvelle encre du vendeur soit mon prix annoncé et ne soit pas l'estimation que lui en faisait.
Ah ouais,
On
c'est un
sait.
outil qui est très utilisé dans la vente et qui est très utilisé, mais qui peut être également utilisé dans le, enfin, qui est, opère également, par exemple, dans le recrutement. Quand je vais arriver et que je vais voir un candidat, il suffit que le candidat, la première information qu'il me dise, c'est qu'il a fait la même école que moi, ou c'est qu'il me fasse une blague, enfin, voilà, qu'il va me poser une encre sur laquelle je peux m'accrocher. Et ensuite, si je me suis persuadée avec cette première encre que le candidat a été, ça matchait super bien, je vais peut-être avoir tendance finalement à lui poser des questions plus simple ou des questions en fait pour confirmer mon choix. Et à l'inverse, si ma première encre c'est une encre négative, je l'ai vu arriver en retard et du coup je vais m'ancrer sur cette information-là, je vais de toute façon partir du principe que c'est pas la bonne personne ou que la personne n'est pas adaptée. Je vais par biais ensuite de confirmation et par biais d'ancrage cumulé finalement aller chercher toutes les bonnes raisons de montrer qu'en fait c'était pas la bonne personne et que j'avais raison depuis le départ.
Vraiment intéressant. Et un biais qui est lié du coup au biais de qu'on a vu à l'instant même, c'est le biais du coup d'heuristique, de disponibilité. Est-ce que tu veux en parler également, le décrire, le préciser?
En fait, ce biais d'heuristique de disponibilité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en fait, on prend nos décisions avec les premières informations qui nous viennent à l'esprit. Et en fait, ça explique tous les autres biais là dont on vient de parler, c'est que notre cerveau, il a une mémoire qui est limitée, il a des ressources qui sont limitées. Et donc, quand il va prendre une décision en 200 millisecondes et 35 000 décisions par jour, il va pas pouvoir à chaque fois aller chercher toute l'information disponible de façon illimitée et prendre une décision très objective. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur un certain nombre d'automatismes et de mécanismes, dont l'heuristique de disponibilité, qui est qu'il va penser à la première information qu'il a en mémoire et qui lui vient à l'esprit. Et donc cette information, elle peut poser une encre. Cette information, elle peut être, voilà, par exemple comme l'effet de halo, ça peut finalement m'ancrer sur quelque chose, sur la première impression que j'ai sur une personne. En tout cas, elle va me limiter dans ma capacité à prendre une décision rationnelle ou objective parce qu'elle va me focaliser sur la première information qui me vient à l'esprit, qui est peut-être pas forcément la bonne. Donc je vais me retrouver par exemple en entreprise. Il y a un exemple qu'on prend souvent qui est, voilà, on cherche aujourd'hui ce qui pose problème. L'équipe ne marche pas bien. Je cherche ce qui pose problème dans mon équipe. Mais tiens, en ce moment, je vois plein de posts sur l'agilité sur LinkedIn. Bah, tiens, la première information qui me vient à l'esprit, c'est peut-être que notre équipe, elle n'est pas assez agile. Et tiens, je vais former tout le monde à l'agilité. C'est pas forcément, on n'a pas forcément regardé la big picture, la vision objective de la situation. Mais la première information qui me venait à l'esprit, c'était celle-ci. Et donc je vais plonger. Ma décision, elle va être basée sur cette information.
C'est un biais qui est vraiment assez proche du biais de l'effet de primauté aussi.
Tout à
On
fait.
retient du coup davantage l'information qui nous est donnée en premier. Et en opposé, il y a l'effet de récence, du coup, c'est l'information qui est donnée en dernier cette fois-ci, qui retient également l'attention du cerveau. Et c'est pour ça qu'en réunion, souvent on retient le début et la fin, mais pas le milieu. Il y a
Tout
un
à fait.
vrai ventre mou, pardon, au milieu en général.
Ouais, notre cerveau, il a des capacités qui sont limitées. Il a des ressources limitées, sa mémoire en fait partie, et donc il va prioriser en mémoire des informations qui sont associées à une charge émotionnelle qui est très forte. Donc, par exemple, on a raconté une blague, on a donné un exemple, donc je vais mieux m'en souvenir que si j'ai de l'information brute. Et puis, il va y avoir effectivement ces effets de vraiment l'instant de mémorisation. Je vais mieux mémoriser des moyens mnémotechniques, je vais mieux mémoriser ce qu'il y a au début, ce qu'il y a à la fin, que tout ce qu'il va y avoir au milieu.
Ça me rappelle une expérience qui a été menée chez les promptologues de mémoire, où justement ils faisaient exprès de faire durer davantage l'intervention, mais avec plus de, entre guillemets, plaisir à la fin pour que l'expérience globale du patient soit positive. Et on remarque ça également dans les restaurants où à la fin, souvent, est servi un petit café avec une petite touche sucrée. pour que la bonne impression qui reste, ce soit le petit dessert agréable du restaurant, et qu'on fasse fi en quelque sorte du plat qui était trop salé ou un peu trop cuit.
Exactement, c'est un biais qui s'appelle le biais d'apogée fin. En fait, c'est un
Ok.
biais, justement, je vais y mieux me souvenir, je vais pas me souvenir de la moyenne de ce que j'ai vécu, mais je vais mieux me souvenir du début et de la fin de mon expérience. Et si j'ai une très bonne expérience au début, une très bonne expérience à la fin, ou dans ton exemple, si j'ai pas du tout souffert au début et pas du tout souffert à la fin, même si finalement j'ai eu des pics où j'ai plus souffert au milieu, et bien je vais moins m'en souvenir et je vais avoir une expérience plus positive, que si finalement tout était moyen.
Un très bon exemple est Game of Thrones, où la série était très très bonne, à part la dernière saison qui a été catastrophique, tout le monde l'a dit, et au final, l'image que l'on se fait de Game of Thrones aujourd'hui est négative et non pas positive. Tout ça pour une fin qui a été gâchée.
Exactement, pour ce biais d'apogée fin, où finalement la fin, au lieu de, voilà, c'est ce que je vais garder en mémoire, c'est ce qui va être émotionnellement le plus fort pour moi, puisque tout simplement le plus près par effet de récence. Et donc, je vais finalement recolorier, toujours avec ces mêmes biais, par exemple, de rétrospection, je vais recolorier ce que j'ai vécu avant, en me disant, avec le côté je le savais finalement, c'était pas si bien que ça, tout n'était pas si bien, alors que juste parce qu'on s'est focalisé sur l'information, la dernière information.
Un autre biais intéressant selon moi, c'est l'erreur fondamentale d'attribution, qui est juste essentielle dans la façon de se voir, de se percevoir, de comprendre ses actions, ses raisonnements, ses échecs et ses réussites. Est-ce que tu veux là aussi du coup le développer et montrer potentiellement comment s'extraire de ce biais-là qui peut vraiment ruiner beaucoup de prises de décision, l'estime qu'on a envers soi-même, et également potentiellement des projets, des réussites ou des ambitions?
En fait, l'erreur fondamentale d'attribution, c'est le fait d'expliquer le comportement des autres par leur trait de personnalité plutôt que par l'influence du contexte. Et il est très lié à un autre biais que moi j'aime bien, qui est l'effet acteur-observateur. C'est-à-dire, j'ai tendance, moi, quand je parle de moi, j'explique mes comportements par des causes externes. C'est la situation qui n'était pas favorable, c'est le contexte. Je connais ma petite voix qui sait qu'en fait le process était bon, mais finalement j'ai pas eu de chance, etc. J'ai eu des
La
difficultés
faute a
en
pas de
gros.
chance.
La faute à pas de chance, versus je vais faire des raccourcis entre la personnalité d'autrui et ses comportements. Et donc, je vais être dans le jugement. Donc, moi, je suis en retard parce que c'est pas de ma faute, j'avais des bouchons et parce que y avait plein de raisons qui l'expliquent. Donc, c'est pas si grave que ça. Par contre, si mon collaborateur ou mon nouveau stagiaire que je viens de recruter est en retard, moi, je vais considérer qu'il est pas fiable, voilà, que c'est pas une personne digne de confiance et je vais faire un raccourci entre son comportement, enfin, un comportement à un instant T et sa personnalité ou ce qu'il est de façon générale. Et donc, c'est très lié à notre capacité de jugement. C'est-à-dire que nous, on est toujours plus indulgents avec nous-mêmes et plus exigeants avec les autres parce qu'on n'a pas leur petite voix interne ou leurs petites explications du contexte. Et donc, on va faire des raccourcis, toujours par automatisme, raccourcis entre ce que je vois et ce qu'il est. La personne ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, c'est vraiment que c'est quelqu'un d'impoli. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose juste avant qui était, voilà, qui peut expliquer. Peut-être que j'étais dans l'entrebâillement de la porte, qu'elle m'a pas vu. Bref, il pourrait y avoir d'autres éléments de contexte, mais je vais avoir tendance à faire ce raccourci.
Vraiment intéressant. C'est ça qu'on prend constamment pour soi-même les éléments qui nous arrivent aussi. On fait
Eh bien,
jamais, on prend jamais, on fait l'économie de l'énergie que demanderait le fait de prendre du recul par rapport à ça. Comme tu l'as dit, est-ce que la personne n'a pas vécu quelque chose de compliqué? Est-ce qu'elle n'a pas connu ceci? Est-ce qu'elle n'a pas connu cela? On va au plus simple, on va à l'idée de base, au système 1, pour directement économiser encore une fois de l'énergie.
saute à la conclusion avant même de se poser les questions, avant de perdre du temps à poser des questions qui pourraient nous apporter des informations complémentaires, mais peut-être pas. Et donc, on a effectivement même plutôt tendance à être, mais on y revient dans la sanction, dans le jugement, plutôt que de poser la question à l'autre quand on fait un feedback négatif du pourquoi. Pourquoi il s'est comporté comme ça? Pourtant, en fait, on est dans juger l'autre au lieu de juger son comportement, et donc au lieu de le questionner aussi.
On l'a vu ensemble au départ, les biais sont un héritage évolutif. Ça fait des milliers d'années qu'on a ces biais-là. L'évolution les a conservés parce qu'ils nous ont aidés au niveau de la survie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement lutter contre les biais? Même si on les connaît.
C'est une question. Alors, je les connais et je ne suis pas meilleure qu'une autre pour lutter contre, tout simplement parce que 99% de nos décisions sont inconscientes. Donc, effectivement, nos biais sont inconscients, sont des automatismes dont on a hérité et dont il est très difficile de se prémunir. Par contre, aujourd'hui, il y a deux leviers qui existent pour limiter l'influence de nos biais. Le premier, c'est effectivement ce système 3, c'est-à-dire que ce système 3, il est fait pour résister à nos automatismes et nous permettre de faire ce pas de côté pour plutôt nous permettre au système 2 d'agir. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, justement, c'est entraîner ce système 3, apprendre à résister. Il y a un livre qui est très intéressant sur ce sujet d'Olivier Houdet, qui s'appelle Apprendre à résister, justement, qui est comment je vais pouvoir entraîner mon système 3 pour justement résister à mes automatismes. Donc moi, individuellement, je vais pouvoir m'entraîner à faire ce pas de côté, m'entraîner à limiter l'influence de mes biais. Et donc c'est déjà un premier pas, déjà en prendre conscience, ça c'est le premier pas, c'est prendre conscience qu'ils existent, et puis développer ce qu'on appelle ma métacognition, c'est-à-dire développer la connaissance que j'ai de moi-même, et donc les biais sur lesquels je suis plus sujet et dans lesquels j'ai plus tendance à plonger que d'autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous, on a tous les mêmes mécanismes, mais on n'est pas tous sensibles aux mêmes biais de la même façon. De par notre expérience, notre histoire, on n'a pas tous les mêmes automatismes. Et donc s'ouvrir la porte de la conscience, de dire je sais qu'ils existent et quels sont les biais que moi j'ai et contre lesquels j'ai envie de lutter, c'est déjà un premier pas. Et puis le deuxième pas, il va être collectif. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va pouvoir limiter l'influence de nos biais en changeant, et individuellement aussi, mais en changeant surtout le contexte. C'est-à-dire que mon cerveau, il voudra toujours prendre la décision la plus rapide, adaptée au contexte qu'il a en face de lui. Et donc, effectivement, dans 99% du temps, il va le faire de façon inconsciente. Mais si le contexte change, ma décision, elle va changer aussi. Donc en fait, en transformant le contexte, je vais pouvoir limiter l'influence de mes biais ou en tout cas décider de la façon dont ils vont influencer mes décisions. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, si je sais que on a tous le même biais, quand j'ai faim et que je vais faire mes courses, eh bien, je vais avoir tendance à acheter des sucreries. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'influence de ce biais-là? Je sais que de toute façon, une fois que je serai devant, je vais avoir tendance par impulsivité à pas réussir à résister et à le prendre. Ben, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir, un, écrire ma liste de courses avant même d'aller dans le magasin, comme ça ensuite je suis la liste et j'ai plus de facilité à résister. Je vais pouvoir, deux, ne jamais y aller le ventre vide. Et comme ça, justement, je sais que dans ce contexte-là, quand je viens de manger, ben, je suis moins enclin à aller sauter sur les premières sucreries. Je vais pouvoir changer le contexte. Et en entreprise, ça va être le cas pour, par exemple, si on veut favoriser des décisions plus inclusives. On va pouvoir se poser les questions dans le contexte qui est le nôtre, comment dans mon process de recrutement, par exemple, je vais pouvoir modifier la façon qu'on a de faire, les questions qu'on va poser, la façon dont on va recruter, CV avec ou sans photo, etc., pour justement transformer le contexte et faire en sorte qu'on plonge moins dans nos biais. Parce qu'ensuite, on sait qu'il sera là, le biais de halo, le biais de ma première impression, mon biais d'ancrage, ils vont opérer. Mais du coup, si je change le process, si je change le contexte, je peux limiter l'influence collective.
Mais est-ce que ces biais n'ont pas encore des vertus aujourd'hui quand même? Est-ce que forcément chercher à les inhiber, même si encore une fois ce n'est pas possible, les contrôler, on va dire, n'est pas un peu nous tirer dans une certaine mesure une balle dans le pied? C'est une vraie question que je te pose.
Ouais, non, mais c'est une
C'est...
très bonne question dans le sens où nos biais ne sont pas quelque chose initialement, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là pour nous aider à prendre de meilleures décisions rapidement. Le biais devient négatif ou on a envie de lutter contre quand il me conduit à des comportements qui sont pas rationnels ou qui sont délétères. Quand collectivement, il me conduit à l'inaction climatique, quand collectivement, il me conduit à prendre des décisions qui sont pas inclusives, quand on a ce type de comportement, on peut vouloir se dire qu'il faut limiter l'influence de nos biais. Dans le quotidien, les biais, c'est une bonne chose parce qu'on a 35 000 décisions par jour à prendre, 99% de nos décisions qui sont inconscientes. On ne peut pas être constamment en train de prendre des décisions rationnelles, de faire un pas de côté et de prendre du temps pour la décision. Donc nos biais et nos automatismes, ils sont positifs parce qu'ils nous permettent au contraire d'automatiser tout un tas d'actions sur lesquelles j'ai pas envie de mettre de l'effort et de la ressource cognitive dans cette prise de décision-là, pour me laisser le temps, au contraire, de prendre les décisions importantes.
À l'échelle individuelle, une recommandation que j'aime bien donner, c'est le fait de tenir un journal, au final, au quotidien. Et car tu l'as très bien dit, l'idée, c'est d'apprendre la méta-analyse. Sauf que ça ne s'apprend pas par hasard. C'est pas par pure sérendipité, ça tombe pas comme ça du ciel, il faut le travailler. Et on peut le travailler simplement en, comment dire, en prenant le temps d'écrire tous les soirs, potentiellement, les problèmes par lesquels on est passé. Les comportements qu'on a eus qui nous semblent irrationnels. Pour essayer de trouver un peu des patterns, des schémas dans lesquels au final on sent qu'on se fait biaiser en quelque sorte. Et pour mettre dès à présent en place le comportement pour éviter ce biais. Souvent c'est ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom malheureusement, c'est le fait si Y se produit alors je fais X. C'est l'implémentation d'intention. En fait le cerveau humain il est prédictif. Il est constamment en train d'analyser ce qui se passe autour de lui pour comprendre ce qui pourrait lui arriver s'il fait telle action ou telle action. En termes d'augmentation ou de diminution de ses ressources disponibles. Temps, à nouveau, relations, argent et j'en passe. Et si effectivement on prend le temps d'implémenter des schémas de pensée, presque des modèles mentaux en quelque sorte, en se disant si telle action se produit, alors je fais X, le cerveau va comprendre immédiatement que quand telle action va se produire, alors c'est X qui doit en découler. Et donc le X en question, logiquement, est censé éviter le biais. Et après, comme tu l'as très bien dit, également, c'est une notion d'amélioration continue.
Et
Peut-être que
dans
le
son
X au
entraînement.
final, c'est plus un Y qu'il faudrait, et non pas un X. Donc on va réanalyser le X en question pour voir si réellement ce choix-là est le bon choix à prendre pour inhiber le biais en question. Et si au contraire ce choix-là ne vient pas renforcer le biais, ce qui est une possibilité, ou voire créer un nouveau biais qui pose problème mieux également. Vraiment prendre le temps d'écrire, se poser ne serait-ce que 10 minutes pour essayer de se comprendre soi-même. Parce
C'est déjà
qu'aujourd'hui,
un pas
on
qui est
comprend
énorme et
plus.
aujourd'hui qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'être extrêmement performant. On fait des progrès incroyables en termes d'innovation technique. On est capable de connaître parfaitement la physique quantique, où j'en passe, où je. Où des... Mais par contre, on se connaît très mal soi-même et on comprend très mal les autres. Et on ne prend pas en tout cas le temps de se poser la question de comment je fonctionne, quels sont mes modèles mentaux, quels sont les raccourcis que je fais, quelles sont les raisons qui me poussent à prendre un certain nombre de décisions. On est tout de suite dans le jugement a posteriori, au lieu de se poser la question du process et de la façon qui me. De ce qui m'a amené à prendre cette décision ou à avoir ce comportement. Et effectivement, c'est très intéressant de penser de cette façon-là et parfois de l'écrire ou d'en discuter avec un tiers, etc., avec un coach ou autre, pour justement se poser la question de quel a été le déclencheur qui m'a poussé à agir de cette façon et quel est du coup le levier que je vais pouvoir mettre en place pour changer le contexte et changer du coup ma réponse par rapport à ce comportement-là. Et bien avoir conscience que le changement est à la fois de comportement, il est à la fois extrêmement difficile parce que ça va me nécessiter de désapprendre un automatisme que j'ai pour en apprendre un nouveau. Mais il est totalement possible parce qu'on a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale qui fait que mon cerveau, il est capable de s'adapter. Et qui, si j'ai un contexte différent, si j'ai un déclencheur différent, ben mon cerveau, il va proposer une réponse qui est différente. Et ça, moi, je le vis au quotidien, par exemple, avec les enfants, et tu donnais un très bon exemple tout à l'heure, qui est de dire que plutôt que des fois de lutter face à certaines choses récurrentes, certains comportements récurrents ou certaines tâches qu'il faut faire au quotidien, etc. Juste en changeant le contexte, en changeant le déclencheur que moi je donne, je peux obtenir un comportement qui est différent, alors que je n'ai pas changé forcément la personne qui est en face. Je lui ai juste donné un autre inducteur qui fait que son comportement est différent.
Nous, exemple tout bête, souvent les repas avec les enfants sont compliqués. Le fait d'aller à l'extérieur pour manger change tout. Parce que le
Contexte
contexte n'est plus le
différent,
même.
comportement différent. Et là, à nouveau, effet complètement social. C'est-à-dire que si je vois tout le monde au restaurant qui est assis à table et qui est en train de manger et qui chuchote et personne qui se met à hurler, j'ai plus tendance, alors je passe les enfants de 2 ans, mais en grandissant, j'ai plus tendance à observer ce qui se passe autour de moi et à me dire, ça, c'est le comportement acceptable, ça, c'est la norme sociale, ça, c'est ce qui se fait autour de moi et donc je vais l'adopter. Alors que chez moi, bah, c'est moi la norme, c'est moi ce que c'est en tout cas mon propre comportement qui va guider la dynamique de toute la famille.
Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des biais avec l'évolution du numérique? Aujourd'hui, grâce ou à cause de la pandémie, on est de plus en plus en dématérialisé. Les gens travaillent de plus en plus au travers non pas d'un échange physique, mais d'un échange à distance. Comment opèrent les biais au travers des écrans? Est-ce que les biais opèrent encore? Comment est-ce qu'effectivement cette notion d'interface homme-machine en quelque sorte influence l'expression des biais à l'heure actuelle? Et est-ce qu'il y a une influence également?
C'est une question qui est très intéressante parce qu'à mon avis, il y a deux chemins qui me viennent, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est dans l'ère du numérique qui est la nôtre, on est beaucoup plus stimulé. Qui dit plus stimulé dit avec beaucoup plus de tendance à plonger dans nos biais parce qu'on n'est plus en capacité, à cause de ces bombardements d'informations, justement de faire le tri efficacement et de prendre les bonnes décisions. Donc forcément, par les outils numériques, ben là, je suis en train de te parler, si j'avais pas tout bloqué, j'ai sûrement plein de mails qui sont arrivés, des pop-ups probablement, et finalement, mon attention est divisée, et donc mes capacités à faire appel à mon système 2, elles sont complètement inhibées. Donc on plonge beaucoup plus dans nos biais. Et le deuxième élément, effectivement, c'est qu'à travers l'écran, on perd un certain nombre d'informations. C'est-à-dire qu'à la fois, on a plus d'informations disponibles. Si moi, j'ai envie de faire une recherche sur un sujet, je vais plus avoir de facilité par rapport à il y a quelques années quand on n'avait que les livres. Je vais avoir des facilités à justement aller chercher les hypothèses concrètes, chercher d'autres informations, chercher d'autres opinions parce que tout est à ma disposition. À l'inverse, quand là, par exemple, on est dans un échange comme ça à travers l'écran, je vais perdre un certain nombre de données liées tout simplement au comportement qui a à tout ce qui va être non verbal et tout ce qui va faire que j'aurais pu percevoir certaines choses à travers le comportement de l'autre si je suis à côté de lui, que je ne vais pas percevoir à travers l'écran. Donc ça va aussi me faire plonger dans un certain nombre de biais, par exemple avec les recrutements dématérialisés où on est voilà en digital par exemple, parce que je vais pas percevoir un certain nombre d'éléments de comportement que j'aurais pu percevoir si j'étais dans la même salle. Donc les deux combinés font que dans l'ère qui est la nôtre, Avec en plus d'autres éléments qui se rajoutent, avec l'IA, avec la possibilité aujourd'hui que les sources d'informations, on ne sait plus si elles sont vraies ou fausses, qu'une image qu'on a sous les yeux, on peut plonger dedans et faire un monologue et un débat pendant 10 heures à dire que c'est une quelque chose d'affreux, mais en fait c'est une image qui est construite par l'IA qui n'est même pas vraie. On a plus de mal à avoir la fiabilité des sources, la fiabilité des informations, et on a tellement d'informations à disposition que c'est beaucoup plus dur de prendre des bonnes décisions. Et donc nos biais sont... Et on a toutes les conditions, on va dire, réunies de contexte pour plonger dans un maximum de biais.
Il y a un élément, tu vas me dire ce que tu en penses, mais qui me paraît important également, c'est de ne pas chercher à tout maîtriser. Parce que c'est la meilleure solution pour ne rien maîtriser. Il faut mieux effectivement s'inquiéter de quelques sujets qui nous tiennent à cœur, les identifier effectivement à la base, réellement plonger dans ces sujets, retourner carrément au principe premier pour les maîtriser, pour justement évacuer les biais, pour développer une vraie expertise par rapport à ces derniers, les sujets bien évidemment, et potentiellement se donner, accepter le fait qu'on peut être biaisé sur le reste.
Bien sûr. Il faut de toute façon, d'ailleurs, ça me fait penser à. Je passe le bonjour à mon ami Alexandre Scapaticci qui a fait, quand on avait fait la conférence TEDx, qui faisait la conférence juste après moi, qui était ici pour lever l'influence de ses biais, il fallait lâcher prise. Et effectivement, perdre le contrôle en fait partie, puisque de toute façon, 99% de nos décisions sont inconscientes, je ne pourrais pas tout contrôler. Donc à moi de focaliser mon énergie, mes ressources mentales, ma charge mentale sur les éléments qui me semblent pertinents. Mais finalement, c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de prioriser. C'est de trouver l'information qui est pertinente et trouver là où justement de ne pas m'éparpiller. Parce que mes stimulations sont multiples, parce que les sources sont multiples, je peux même, je fais une recherche, je peux y passer la matinée parce que les ressources sont infinies. Donc c'est à moi de cadrer le temps que j'alloue au projet, quel est le temps de prioriser aussi les projets. Et pour ça, il y a des matrices qui existent, il y a plein de choses qui existent, pour limiter un biais qui est un des biais, par exemple, qui est la loi de futilité de Parkinson. C'est un biais selon lequel j'ai plus de facilité à aborder tous les petits sujets que de m'attaquer au sujet de fond. Et donc aujourd'hui, c'est un biais qu'on voit partout dans notre quotidien. C'est-à-dire que le matin, je vais plutôt tendance à je check mes mails, je réponds à des gens, je fais la pause café, ensuite on va parler de tous les problèmes à la machine à café. Et puis à la fin, j'ai attaqué aucun sujet de fond et j'ai beaucoup de mal à me mettre dans les sujets de fond parce que justement, je suis polluée par tous les problèmes superflus. Donc ça devient dans le monde dans lequel on est, on ne peut plus faire l'impasse à se dire je peux pas tout contrôler, mais du coup, il faut que je contrôle mon temps, il faut que je contrôle mon énergie pour justement faire en sorte que ce que je fasse, que je le fasse bien, parce que je sais qu'ensuite, le reste, je vais être en roue libre, je vais être en automatisme et que j'aurai pas le choix.
Et je pense que le premier contrôle à opérer, c'est appliquer un filtre par rapport aux informations qui nous viennent au quotidien. Aujourd'hui, les gens veulent tout savoir, tout maîtriser, tout connaître. Et à nouveau, encore une fois, on est sur un biais. Sur
On
le
est sur
fait,
un
en
biais qui
fait,
s'appelle le FOMO, Fear of
voilà.
Missing Out. Si je ne suis pas
Parce
là, j'oublie tout. Je
c'est ça
fais du
exactement. En
mal.
fait, littéralement, l'information, quand on revient dans le temps, plus l'information était présente, plus elle était utile pour la survie. Donc quand je maîtrisais l'information, quand je savais, moi, homme préhistorique, où étaient les baies, où étaient les animaux, où étaient les points d'eau, etc., j'augmentais mes chances de survie. Aujourd'hui, on a transformé ça, malheureusement, à cause de l'évolution, à cause de la technologie, en je dois connaître toutes les informations qui se passent autour de moi. Et même les informations qui ne me concernent pas directement. Et là, ça fait écho au cercle d'influence, où en fait, aujourd'hui, la majorité des informations qui nous arrivent sont uniquement des éléments qui viennent nous préoccuper. Autrement dit, on a conscience que ces éléments existent, qui peuvent potentiellement nous nuire, mais on n'a aucune influence dessus. Et pour le cerveau, c'est la pire chose possible. Parce qu'il sait qu'il y a un problème, mais il ne peut pas agir. Et en se coupant de ces informations-là, déjà, on se réapproprie de la charge cognitive, de l'espace mental. Et donc, on sera moins sujet au biais, comme on l'a vu ensemble au cours de l'échange. Parce que plus on a de disponibilité mentale, moins on va chercher la solution rapide pour un problème. Plus on aura l'énergie nécessaire pour prendre du recul et pour analyser, voire méta-analyser une situation pour y répondre avec les bons outils et les bons protocoles. Donc, carrément, cette notion de filtrer l'information qui nous parvient aujourd'hui.
Ouais, c'est vraiment un des enjeux, mais on peut repartir des quatre catégories de biais du codex, qui est justement une des. Pourquoi les biais opèrent? C'est pour agir vite, mémoriser efficacement, donner du sens, et le dernier, filtrer l'information. Si l'information ne fait que augmenter, effectivement, mon filtre, il est moins bon. Si dans mon entonnoir, j'ai 1 milliard d'informations à faire passer, mais forcément, je fais du tri qui n'est pas forcément le bon. Je mets mon énergie sur des éléments qui ne sont pas forcément les bons. Et donc, en limitant l'entrée dans cet entonnoir-là, en limitant la qualité des informations qui sont les miennes, en limitant la fiabilité des informations, mais aussi le nombre de simulations qui sont les miennes, bah, je vais faire en sorte que, vu que mes ressources cognitives, ce sont toujours les mêmes, l'entonnoir, il est toujours le même. Alors évidemment, avec la fatigue, avec l'expérience, avec l'habitude, il peut varier, mais en tout cas, il est limité, et il est extrêmement limité. Donc, vu que ce filtre, il est limité, bah, à moi de faire entrer les bonnes informations dedans, ou en tout cas de limiter leur influence pour me laisser l'espace, la charge mentale, d'aller prendre des décisions qui soient pertinentes et qui soient celles, en fait, avec lesquelles, parce que au-delà de prendre une bonne décision, ça veut dire quoi, en fait, prendre une bonne décision? Une bonne décision, c'est une décision, ça veut dire quoi être rationnel, ça veut dire quoi une bonne décision? C'est une décision, en fait, avec laquelle moi, je suis confortable et avec laquelle moi, je suis en cohérence et en alignement où j'aurai pas justement cette dissonance cognitive. C'est éviter de réagir par automatisme ou par impulsivité en se disant derrière, j'aurais pas dû réagir comme ça ou j'aurais pas dû prendre cette décision. Ça, c'est le sentiment le plus désagréable pour soi. Et donc, pour éviter ce sentiment-là, il faut quand même garder le contrôle sur un certain nombre, la façon dont je prends mes décisions, de façon à ce que je puisse prendre des décisions avec lesquelles ensuite je vais être en aligné.
On a balayé pas mal de choses, Charlotte, ensemble aujourd'hui. Au niveau des biais, leur origine, est-ce qu'on peut ou non, entre guillemets, les diminuer, du moins négliger leur impact sur notre quotidien? Est-ce que tu as des ressources à nous donner pour aller encore plus loin si jamais on veut creuser ce sujet-là? Je pense forcément à Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qui est la base. Il faut un peu s'accrocher pour le lire, par contre. On n'est pas sur un livre qui est vulgarisé,
Ouais,
très clairement.
on est sur un livre qui est passionnant, qui a été clé, qui est absolument nécessaire. Aujourd'hui, moi, je conseille évidemment tous les ouvrages d'Olivier Siboni, tout simplement parce qu'ils sont extrêmement opérationnels, alors sur des problématiques managériales, évidemment. Mais voilà, ils sont très faciles à lire. Ils nous éclairent énormément sur ce que sont les biais. Donc moi, c'est des livres que j'aime beaucoup. Je conseille évidemment le livre d'Olivier Houdet, sur justement apprendre à résister, avoir connaissance de ce système 3, qui est pertinent. Et puis aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui sont développés. Alors, on parlait à l'école. À l'école, il y a un programme qui est issu du laboratoire dont je suis issue, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, par le docteur Lachaud, qui s'appelle ATOL, Apprendre l'attention à l'école. Et justement, qu'aujourd'hui, très peu d'enseignants connaissent, que je ne connais pas beaucoup d'écoles qui l'utilisent et qui pourtant me paraît clé et indispensable dans justement cet apprentissage de comment je fonctionne, comment mon cerveau fonctionne dès la petite enfance, de comment je vais pouvoir maîtriser mes attentions et rediriger mes attentions. Et je pense que c'est un enjeu qui est clé aujourd'hui à l'école. Et pour ensuite, pour les adultes, ou en tout cas nous, pour une cible plus de collaborateurs au travail, nous, on a développé un outil et un jeu qui s'appelle Déjouer vos biais cognitifs, justement dans cette idée d'aller à tous les niveaux. C'est-à-dire que le jeu, il se fait en plusieurs lectures. On peut avoir uniquement la partie prise de conscience, c'est-à-dire je vais justement sensibiliser aux gens à l'existence des biais, juste se rendre compte de comment on fonctionne, qu'on est tous pareils. On a créé d'ailleurs un collectif qui s'appelle Nous sommes humains, parce qu'en fait, on l'est tous. Et on fonctionne tous de la même façon. Alors après, on n'a pas tous les mêmes automatismes et les mêmes expériences, mais en tout cas, développer sa métacognition et sa conscience de soi, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important. Et c'est le premier pas vers le fait de limiter l'influence des biais. Le deuxième pas, ensuite, ça va être d'être en capacité de désautomatiser, transformer ses comportements pour limiter leur influence. Et donc, nous, on fait, voilà, à travers nos jeux et nos outils, on a essayé de développer ces trois étapes, justement, pour je prends prise de conscience, désautomatisation et transformation. Et donc, aujourd'hui, nous, on fait des interventions en entreprise, des workshops pour animer, pour vraiment aller de la sensibilisation jusqu'au plan d'action. C'est-à-dire être capable d'être en mesure de repartir avec un plan d'action clair, en se disant, voilà les biais auxquels on fait face en équipe ou individuellement. Voilà les choses qui nous semblent prioritaires et voilà les solutions qu'on va pouvoir mettre en place, concrètes, simples, dès le lendemain, mon premier petit pas pour justement réduire leur influence.
Super, je mettrai tous les liens directement en ressources. Le jeu que tu as développé et dont tu parles, est-ce qu'une personne, entre guillemets, un individu peut l'acheter? Ou est-ce que c'est réservé aux entreprises?
Non, alors c'est même pas réservé aux entreprises, c'est réservé aux membres de notre collectif.
D'accord.
Donc du collectif Nous sommes humains, en fait, on forme des animateurs, on a des sessions de formation d'animateurs pour animer à ce jeu, tout simplement parce que c'est pas un jeu. On pense à une version ludique qui pourrait être. Il en existe en fait déjà aujourd'hui, c'est pour ça que la cible, il y a un jeu qui s'appelle Attrape. Peur de biais, si je ne dis pas de bêtises, d'Olivier Siboni d'ailleurs, qui permet d'avoir des cartes avec des jeux, avec des définitions des biais, savoir à quelle catégorie ils se rattachent et leurs définitions. Donc pour la partie prise de conscience, ça c'est des jeux qu'on peut acheter dans le commerce et qui je pense sont les premiers à aborder pour tout à chacun qui a envie de se former sur les biais. Donc c'est plutôt le jeu que je recommanderais pour une personne qui a envie de se former individuellement, enfin de mieux comprendre individuellement les biais. Nous, notre démarche, elle est de dire que on a formé des animateurs à l'animation de ce jeu pour vraiment accompagner une transformation et accompagner la prise de conscience. Donc on va au-delà de la définition et de la première phase de notre jeu qui est la prise de conscience. On va vraiment se poser les questions des comportements, des situations, des déclencheurs et des solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Et donc ça s'inscrit dans comment construire un plan d'action, comment animer un workshop pour pouvoir justement aller sur cette phase concrète de solution et de plan d'action. Et donc ça, on le met pas entre les mains de tout le monde. C'est un outil qui est réservé, enfin, qui est réservé à notre collectif et à nos animateurs. Après, par contre, ils en sont propriétaires. Eux peuvent animer autant de workshops qu'ils le veulent. Mais en tout cas, c'est vraiment, il s'est porté ensuite par notre équipe. On leur fournit aussi des supports d'animation, des supports de formation aussi pour monter en compétence sur les biais. Parce qu'il suffit pas d'avoir lu 3 livres pour être compétent. Vient notre cher effet Dunning-Kruger sur les biais. Donc, pour ensuite pouvoir en parler en entreprise, etc., nous, on forme les gens. Donc on forme les animateurs sur ce que sont les biais cognitifs. On leur fournit des supports d'animation et des supports de formation pour savoir comment animer ces workshops-là, pour vraiment, voilà, avoir les outils pour ensuite animer la démarche.
Génial. Et question davantage personnelle, est-ce que tu formes tes enfants au biais cognitif aujourd'hui?
Alors,
Est-ce que
au
tu
biais
commences à les
cognitif,
sensibiliser?
ils sont trop petits. De 4 et 6 ans, autant dire que pour l'instant, à 2 ans, on est très très dans l'impulsivité et dans le système.
J'avais plus celui qui avait 6 ans en tête
Mais
que le
ouais,
2 ans,
mais
effectivement.
celui qui a 6 ans, au biais cognitif, pas forcément. Par contre, à se poser les questions de ses mécanismes de pensée, de pourquoi il a agi de cette façon, et de comment il va pouvoir agir autrement, et d'être dans cette démarche de feedback positif, à se dire on peut trouver des solutions pour essayer d'agir différemment, ça oui. Et par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, il y a un outil en fait, moi, je fais partie du comité scientifique de plusieurs écoles, pédagogie alternative et puis d'écoles classiques. Et donc, je suis très impliquée dans ces questions de pédagogie et de comment on va pouvoir apprendre ces éléments-là aux enfants. Alors, c'est très difficile à faire pour ses propres enfants, mais collectivement, ce qu'on essaye de faire, par exemple, dans l'école de mon fils, ça va être de développer des ateliers de philosophie, apprendre justement à développer son esprit critique et à se poser des questions. Et ça, aujourd'hui, il y a des ateliers qui existent qui sont juste extrêmement précieux pour aborder ces questions-là à cet âge-là. Apprendre à faire ce pas de côté sans même avoir le nom de cerveau, de biais cognitif ou de quoi que ce soit, c'est juste apprendre à réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Donc, il pose des questions dès la maternelle. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Qu'est-ce que c'est que se poser des questions très simple, mais qui finalement appelle des réponses qui nous amènent justement à limiter nos biais de confirmation, à aller chercher d'autres hypothèses, à apprendre à écouter l'autre. Et ça me paraît déjà être des fondements qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence la philo au lycée. Au lycée, quand finalement on a perdu ce côté question pourquoi, si toi qui as des enfants un peu du même âge que les miens, c'est l'âge où ils se posent toutes les questions des pourquoi. Et où il faut leur apprendre justement à éveiller leur esprit critique, à écouter ce que l'autre a à dire. Et ça s'acquiert dès tout petit parce qu'après c'est trop dur. Enfin, en tout cas pour moi, c'est trop tard de commencer la philosophie au lycée. Donc ça, c'est une des choses pour lesquelles je crois. Et puis la deuxième, il y a des outils aussi que Olivier Houdet, des petites valises qu'il a développées pour apprendre à résister avec tout un nombre de jeux. Et effectivement, moi, avant de les proposer aux écoles, je les ai testés à la maison avec les enfants. Et c'est des petits jeux de cartes. C'est des petites valises, apprendre à résister. Et justement, des jeux de cartes pour faire travailler leur contrôle inhibiteur, pour apprendre à résister à mes
Super.
automatismes. Et c'est un outil qui. Donc, il y a deux mallettes. Une mallette pour la maternelle, et donc pour les non-lecteurs, et une mallette pour les lecteurs, donc avec des jeux qui sont un petit peu différents, mais dans cette logique de apprendre à résister à mes automatismes. Et moi, avec mes tout petits pas de fourmi, j'en parle autour de moi. Et du coup, il y a quelques écoles maintenant avec lesquelles je collabore qui sont outillées avec ce type de choses. Mais j'espère qu'à terme, voilà, c'est quelque chose qui va se développer parce que je pense qu'il y a un intérêt qui est énorme pour nos enfants. On se rend même pas compte à quel point là, mon fils entre dans l'apprentissage de la lecture et à quel point justement ça fait travailler notre contrôle inhibiteur et notre système 3. Parce qu'au lieu de voir mes automatismes et donc de lire très rapidement un mot, je vais devoir résister à la première, voilà, aux premiers automatismes que j'ai pour lire le mot et déchiffrer le mot jusqu'au bout. Et donc, voilà, c'est des choses qui s'apprennent et plus on les outille, plus on les accompagne petits, moins ça va être ensuite difficile, après.
Génial, merci pour ces partages. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de nous quitter?
Eh bien, le mot de la fin, c'est difficile. Déjà, c'est merci à toi. Merci à toi, du coup,
Merci à
de
toi.
cette proposition de faire ce podcast ensemble. Première expérience pour moi que je ne connaissais pas, et ce fut un plaisir, surtout avec toi. Et puis, le mot de la fin, à tous, prenez soin de vous, apprenez à vous connaître, parce qu'en fait, c'est un bien pour vous et c'est un bien pour les autres qui vous entourent aussi, pour se sentir mieux. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui me paraît clé que je vis autour de moi, c'est les enjeux liés à la santé mentale. On est dans un monde stressant, dans un monde où il se passe plein de choses, et donc prendre soin de soi et de sa santé mentale, ça va devenir, à mon avis, assez clé.
C'est intéressant parce que tu fais un pont entre deux domaines qui étaient séparés pendant très longtemps, les sciences dures et les sciences molles, au final.
Mais le cerveau n'a pas de sciences dures et de sciences
Voilà,
molles. Le cerveau,
exactement.
il est unique.
Entre les neurosciences et la psychologie, au final.
Et c'est
Parce
pour
que...
ça que New Brain, la société du coup que j'ai créée, on venait un organisme en sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences cognitives. C'est cette approche pluridisciplinaire qui, pour moi, est indispensable et riche, qui est justement de se dire il n'y a rien de noir ou de blanc ou de personne. Voilà, il faut s'enrichir de toutes les disciplines. Et les sciences cognitives, c'est à la fois les neurosciences, mais la psychologie, l'ergonomie, la linguistique. C'est justement tirer parti de toute la compréhension pour mieux comprendre le facteur humain.
Ah, c'est passionnant, c'est un peu ma démarche également à mon niveau avec la productivité,
Tout à
où je
fait.
limite pas la productivité aux outils, mais vraiment au sommeil, à la cognition, à l'alimentation, au mouvement, à la physiologie, à la psychologie, à tout ça. Parce que c'est un tout. Il
C'est
est
un tout.
vain de croire que l'individu existe en tant que tel. Son environnement crée l'individu. Le lien social crée l'individu. On ne peut pas décloisonner l'individu du reste.
Totalement. Et on ne peut pas penser qu'il y a de baguette magique, un outil, une solution valable pour tout le monde. Je pense qu'il faut justement être dans cette démarche pluridisciplinaire, cette démarche à essayer de comprendre les choses dans leur complexité, en simplifiant bien sûr, mais en tout cas de voir la vision holistique du sujet pour se dire que voilà, on est des êtres complexes, mais on est aussi des êtres passionnants qui ont avec des capacités d'adaptation qui sont assez incroyables. Et si j'apprends à me connaître moi et à apprendre comment mon corps fonctionne, comment mon cerveau fonctionne, comment je réagis à mon environnement, et ben finalement je gagne en confort en tout cas et en confiance en soi.
Merci Charlotte.
Ben merci à toi.
Et à très bientôt.
Ouais, à bientôt.
Salut. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.